Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous. Comment vous portez-vous? C'est début mars qu'a été rendu public le rapport du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, sur le projet Énergie Saguenay de l'entreprise GNL Québec. Souvenez-vous, nous avons parlé ici de ce projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay pour traiter du gaz en provenance de l'ouest du Canada et transporté par un immense pipeline dont 780 km restent à construire. La construction de l'usine de traitement de gaz naturel dans la zone industrielle et portuaire de Port-Saguenay d'ici 2025 permettrait d'exporter annuellement 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, vers l'Europe et l'Asie. Lors des audiences publiques en septembre dernier, les scientifiques et des organismes environnementaux s'alarmaient des retombées environnementales du projet et des incidences sur la santé, le tourisme et la qualité de vie, tout comme des répercussions sur les changements climatiques d'un tel projet. Ce mandat d'enquête et d'audience publique a suscité une exceptionnelle participation citoyenne avec 2580 mémoires déposées, des centaines d'experts entendus et l'acheminement de plus de 900 questions et un long travail de consultation virtuelle en raison de la pandémie. Pour mieux comprendre pourquoi, restez là. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a émis de sérieuses réserves au sujet de ce projet. De très nombreux mémoires ont alimenté la réflexion et ses recommandations. Donc, nous en parlons aujourd'hui avec Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Marie-Ève Muller, responsable des communications et de la philanthropie et rédactrice en chef de Baleine en direct du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour.
Bonjour.
Donc le rapport du BAP comprend 500 pages de recommandations et est le fruit d'une participation record avec 2580 mémoires déposées. Vos organismes respectifs ont déposé des mémoires donc au BAP concernant ce projet. Madame Simard, pour commencer, donc, quelles sont les réserves que vous avez par rapport à ce projet?
C'est un projet qui n'est pas bon tant au niveau environnemental qu'économique et même au niveau social. Donc, il y a plusieurs groupes environnementaux, mais des centaines de scientifiques, des économistes, des étudiants et étudiantes, des personnes qui analysent tant les mammifères marins que le climat, par exemple, qui sont unanimes, qui disent que le projet n'est pas un projet du futur, c'est un projet dépassé et exporter du gaz issu de fracturation ne sera jamais un projet de transition et qu'on doit plutôt se tourner dès maintenant vers des projets durables, des projets qui vont emmener des emplois de qualité dans les régions, mais surtout des emplois qui vont pouvoir durer dans le temps.
Oui, Madame Muller, de votre côté, le GREM a émis certaines réserves aussi. Quelles sont-elles?
Oui, bien, c'est sûr que le GREM ne peut que se prononcer sur la question des mammifères marins. C'est ça notre expertise. Donc, on a laissé à différents autres groupes d'experts le loisir de commenter par rapport aux répercussions sociales, par rapport aux pipelines, etc., etc. Mais ce qui inquiète beaucoup le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, c'est vraiment l'augmentation du trafic maritime qui est lié avec un port méthanier. Et cette augmentation de trafic sur le Saguenay, qui est un des seuls endroits de l'habitat essentiel des bélugas, et on reviendra sur qu'est-ce qu'un habitat essentiel, mais cet endroit-là, le Saguenay, est particulièrement important pour les bélugas, en ce sens où c'est un des derniers endroits tranquilles pour les bélugas. Donc, toute augmentation de trafic maritime, que ce soit avec le projet GNL Québec ou avec un autre projet, pour nous, c'est extrêmement inquiétant.
Oui, le BAP donc a rendu son verdict en 500 pages. Mais est-ce que vous êtes confiantes toutes les deux ou inquiètes de la suite des choses après avoir entendu les propos du ministre Benoît Charrette sur le travail qui reste à faire avec le promoteur du projet pour l'améliorer? Madame Simard?
Le ministre, il est très clair. Le gouvernement a établi trois conditions pour que le projet soit accepté. Et présentement, de l'aveu même du ministre, le projet ne remplit pas ces trois conditions. C'est un projet qui n'a pas d'acceptabilité sociale. Le BAP a reconnu qu'il n'est pas capable de déterminer si le projet a d'acceptabilité sociale. Donc, pour nous, c'est clair, il n'y en a pas. Vous avez dit qu'il y a plus de 2800 mémoires qui ont été déposées au BAP. C'est un record de participation, mais il faut comprendre que de ces mémoires-là, 90% étaient contre le projet. On a aussi une pétition de plus de 120 000 signatures qui sont contre le projet. Et un récent sondage Léger a montré que deux fois plus de Québécois et de Québécoises sont contre le projet comparativement au nombre de personnes qui sont pour. On a un ratio là de 2-1. Alors, c'est clair, il n'y a aucune acceptabilité sociale. Le deuxième critère, c'est la transition énergétique. Le BAP a reconnu que c'est un projet qui n'est pas un projet de transition et qu'au contraire, c'est un projet qui pourrait emmener à ralentir, à freiner la transition énergétique vers les énergies renouvelables dans les pays qui vont importer le gaz liquéfié. Et le troisième critère, c'est au niveau des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le BAP a reconnu que ce projet emmènerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 45 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Donc, plutôt qu'une diminution des gaz à effet de serre, comme le promoteur nous a répété dans les mois et dans les années passées. Oui. Donc, il n'y a aucune condition qui est remplie. Et pour nous, c'est très clair, le gouvernement va devoir refuser le projet.
Oui. Madame Muller, quelle est l'importance de cette menace par rapport aux autres menaces qui peuvent peser?
Oui, c'est ça. Si jamais le projet GNL Québec ne fonctionne pas, et c'est un peu ce qui est espéré, ou du moins qu'on ne donne pas une autorisation avant d'avoir en main toutes les clés pour bien comprendre l'importance du Saguenay pour les bélugas et les potentiels d'une augmentation de trafic maritime, les impacts potentiels d'une augmentation de trafic maritime sur les bélugas. Pour le GREM, c'est sûr qu'il faudrait pas donner l'aval à aucun projet en ce moment. Pourquoi? Mais en fait, le bruit sous-marin a plusieurs impacts sur les bélugas. Les bélugas dépendent du son pour pouvoir communiquer, mais aussi pour pouvoir chasser. Ils font de l'écolocalisation, donc c'est un système un peu de sonore qui leur permet de se repérer dans l'environnement avec leur système auditif. Et s'il y a trop de bruit, tout ce système-là ne fonctionne pas bien. Donc, une moins bonne capacité à chasser, donc à s'alimenter, une plus grande difficulté à maintenir une cohésion sociale, la difficulté de communiquer. Donc, tout ça, c'est très inquiétant pour une population qui est en voie de disparition, rappelons-le.
Oui, on a beaucoup parlé depuis que 2014 que ce projet-là a été annoncé, de coûts environnementaux qui sont plus larges finalement que ce qu'on vient d'entendre sur les bélugas. Madame Simard, rappelez-nous ce que vous reprochez au projet.
Donc, justement, puisque les pays vont devoir se doter d'infrastructures pendant des décennies pour pouvoir importer le gaz, et ça va ralentir en fait leur transition vers les énergies renouvelables, c'est ce que le BAP a dit finalement. Non seulement le projet va ralentir la transition, mais il va aussi amener une augmentation des émissions de gaz à effet de serre globale, puisqu'il va amener une augmentation de l'offre de gaz sur les marchés internationaux. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas investir présentement dans de nouveaux projets d'infrastructures d'énergie fossile, et ça inclut le charbon, le pétrole, mais aussi le gaz. Donc, à la base, c'est un projet d'énergie fossile, c'est un projet qui ne peut pas aller de l'avant puisqu'il va ralentir la transition, augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau des mammifères marins, évidemment, le GREM s'est beaucoup penché là-dessus, sur les impacts que ça va avoir sur les bélugas, sur le béluga du Saint-Laurent notamment. Il y a aussi plusieurs impacts sur le reste de la biodiversité, que ce soit la biodiversité terrestre, par exemple, puisque ça inclut, finalement, le projet inclut le passage d'un pipeline aussi dans la partie au nord du Québec. Donc, il va y avoir une fragmentation, une dégradation des habitats qui va être importante. Ça peut affecter les espèces terrestres. Il y a plusieurs espèces menacées et vulnérables aussi, dont l'habitat va être traversé par le pipeline et qui pourrait donc les mettre en danger. il va y avoir des franchissements de cours d'eau, de milieux humides. On sait que c'est des milieux qui sont très sensibles et qui pourraient donc être affectés aussi par le passage de ces pipelines-là. Donc, tant la biodiversité du Québec en tant que telle que l'atmosphère mondiale là, va souffrir de ce projet. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut dès aujourd'hui plutôt investir dans des projets, des réels projets de transition, puis des projets qui vont réellement apporter des emplois durables, sur plusieurs décennies, là, pas à court terme.
Oui, il y a le coût climatique, vous l'avez parlé, il y a aussi un coût humain parce que ce pipeline va passer aussi proche et des humains et des écoles, mais il y a aussi les bateaux qui vont circuler beaucoup, beaucoup plus. Donc, le mot beluga a été mentionné 213 fois dans le rapport. Donc, quelle importance particulière a le Saguenay pour les belugas, Madame Muller?
C'est une bonne question, puis c'est encore un peu difficile à mesurer. Par contre, ce qu'on a pu voir depuis quelques années, donc depuis 2018, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins travaille avec l'Université du Québec en Outaouais sur un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement du Québec et qui visait justement à mieux comprendre les effets du trafic maritime sur les belugas et à trouver des solutions à l'accroissement potentiel du trafic maritime, parce qu'on s'entendra que le Québec n'est pas dans un mode de décroissance, mais plutôt de croissance. Et donc, on peut s'attendre à ce que le trafic maritime augmente dans l'estuaire du Saint-Laurent et possiblement dans le Saguenay. Donc, c'est à cette question-là, assez difficile à répondre, que s'est attaqué le GREM et l'UCO avec un simulateur. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc, dès la première année, le gouvernement du Québec demandait d'avoir déjà des débuts de réponse, étant donné les évaluations environnementales de GNL Québec, mais aussi de Métaux BlackRock et des autres projets de développement qui sont liés au Saguenay. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'en fait, quand on prend en considération la vie sociale des belugas, qui est une vie sociale très riche, très complexe, il y a des communautés différentes, il y a des mâles, des femelles qui n'auront pas exactement la même façon de réagir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de belugas qui fréquentaient le Saguenay. Avant, la mesure qu'on avait, c'était qu'il y avait environ 5 % de la population qui était présente dans le Saguenay. Si, mettons, on mettait un appareil photo géant au-dessus du Saguenay et qu'on prenait une photo pendant l'été, il y a à peu près toujours 5 % de belugas. Ce qu'on ne savait pas, c'était qui sont les 5 % Et là, on se rend compte que c'est pas juste 5 % de la population, mais c'est plus 60 % de la population qui vient au moins une fois dans le Saguenay. Et ça, ça change beaucoup le portrait parce que ça témoigne de l'importance de ce milieu-là pour l'ensemble de la population des belugas et pas seulement pour une petite fraction de belugas.
Oui, Madame Simard, c'est aussi le Saguenay, une zone écotouristique. Il y a aussi beaucoup d'autres espèces qui dépendent de ce beau milieu-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette importance pour la... Et tant pour les humains, tant pour les humains que pour finalement la faune, la flore, etc. C'est un milieu qui est quand même assez exceptionnel au Québec.
Bien sûr. D'ailleurs, même la municipalité de Tadoussac est venue exprimer ses inquiétudes face au projet de GNL Québec dans le cadre du BAP. En fait, à Tadoussac, l'observation des mammifères marins là, génère là, environ 1000 emplois directs dans la région de Tadoussac. Et il y a aussi plusieurs emplois qui sont créés autour d'un écosystème maritime, un écosystème du fjord aussi en santé, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. Et tous ces emplois-là qui dépendent donc d'un Saint-Laurent et d'un Saguenay en santé, qui dépendent des espèces marines aussi bien présentes, bien en santé, pourraient être menacées par le passage des immenses méthaniers. Si ce passage-là affecte la survie, affecte le comportement des mammifères marins, on pourrait avoir une diminution des mammifères marins, puis même donc mettre en péril des emplois de qualité comme ça. D'ailleurs, c'est estimé, si le projet va de l'avant, tu vas avoir en permanence un méthanier sur le fjord du Saguenay pendant 25 ans, voire 50 ans. Donc, à cause que ces immenses bateaux vont transiger très fréquemment, il va toujours avoir un méthanier sur le fjord. Et on peut imaginer même, par exemple, un bateau de croisière les croisières sont de plus en plus fréquentes sur le fjord du Saguenay. C'est une industrie touristique florissante. Et on peut s'imaginer, bon, quel impact ça aurait d'avoir, par exemple, un bateau de croisière pris derrière un méthanier tout le long de son voyage le long du fjord. Donc, pour nous, c'est clair, pourquoi investir dans un projet du passé qui va ne créer que quelques emplois peut-être précaires, puisque l'industrie du gaz est appelée à disparaître, alors qu'on pourrait plutôt investir et surtout protéger nos emplois de qualité autour du tourisme, surtout de l'écotourisme. Pour nous, c'est clair que c'est plutôt vers ça qu'on doit aller, vers l'écotourisme, vers des emplois qui bénéficient aux humains, mais qui bénéficient aussi aux écosystèmes, parce que de l'écotourisme, ben, c'est des emplois qui ont besoin d'un écosystème en santé, et ben là, tout le monde est gagnant.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Muller, vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Le trafic maritime, c'est dommageable pour la plupart des mammifères marins. Il y a un accroissement de ce trafic-là, même du côté du tourisme. Donc, quelle est l'actuelle situation pour l'instant? Comment vivent vos bélugas avec tous ces bateaux qui vont et viennent?
C'est sûr que c'est un des grands enjeux. Hein. Les bélugas sont en voie de disparition. Ils sont en déclin de 1 à 1,5 % par année. Donc, on n'est pas dans la bonne direction du tout. Il y a encore beaucoup de questions sur la finesse là, pour bien savoir qu'est-ce qui se passe avec les bélugas quand il y a du bruit autour d'eux, quand il y a de la présence d'embarcation. Ce qu'on a pu remarquer jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a différentes réactions. Autant ça va être de modifier des comportements comme arrêter de se reposer, arrêter de s'alimenter, faire des plongées plus longues. Ça peut être aussi là, une augmentation du stress. Ça pourrait aller jusqu'à abandonner un secteur s'il y a vraiment trop de dérangements, de façon temporaire ou même de façon durable. Et c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de travailler à raffiner. Et les réponses n'arriveront pas là dans 10, 15 ans. Avec le simulateur, là, on a bon espoir que d'ici 2023, on ait pas mal plus de réponses. En ce moment, il y a un momentum assez particulier en recherche, quelque chose qui avait jamais été vu depuis le début de l'histoire du GREM. Vraiment du côté du fédéral, avec le plan de protection des océans, il y a des projets de recherche en acoustique avec des balises et des hydrophones fixes qui permettent de capter le son ambiant. La signature acoustique d'à peu près toutes les embarcations qui naviguent sur le Saint-Laurent ont été enregistrées. Il y a eu des balises par Pêcher Océan Canada qui ont été posées sur des bélugas. Donc, c'est des petits enregistreurs qui captent le son. Donc, autant le son que le béluga reçoit que celui qui l'émet, ça calcule aussi là, sa vitesse de plongée, son angle de plongée, etc. Donc, on est vraiment capable, avec l'analyse-là, de ces données-là, de voir comment le son reçu a modifié le comportement du béluga. Et vu qu'on suit le béluga aussi par bateau, on est capable de voir est-ce qu'il y avait d'autres embarcations autour, à partir de quelle distance de proximité avec le bateau le béluga s'est mis à changer ce qu'il fait. Et là, on va vraiment avoir une réponse plus fine sur à quel point est-ce qu'on peut encore augmenter le trafic maritime sans nuire aux bélugas. Ou est-ce qu'il y a des endroits, en fait, où on devrait éviter complètement d'accroître le trafic maritime, où il faudrait diminuer le bruit pour donner un espèce de refuge, un sanctuaire silencieux pour les bélugas? Est-ce qu'en gardant le Saguenay, qui est en ce moment relativement silencieux comme ça, on offre le meilleur endroit aux bélugas pour qu'ils puissent retrouver leurs énergies, accomplir leurs besoins naturels, pour ensuite continuer à être dans des milieux plus bruyants? C'est vraiment une option de conservation qui serait très dommageable de perdre, parce que rendre silencieux un endroit très bruyant, c'est beaucoup plus compliqué que de conserver un endroit qui est déjà silencieux.
Oui, vous avez parlé de pollution sonore, mais on pourrait parler de pollution tout court. Il pourrait y avoir toujours le danger d'un accident. Un méthanier peut se renverser. Il peut y avoir de la pollution aussi. Madame Simard, c'est quoi les risques qu'on prend en acceptant ce projet du côté de l'ajustement de la pollution du milieu et de l'environnement?
Bon, écoutez, les défendeurs du projet vont vous dire le gaz liquéfié, c'est sans danger, puisque dès que ça entre au contact de l'air, ça s'évapore très rapidement. Mais ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est que justement, à partir du moment où est-ce que le GNL commence à s'échapper, donc il faut comprendre que le gaz naturel liquéfié est maintenu à des températures très basses pour qu'il soit sous forme liquide. Mais s'il y a une fuite, il va entrer en contact avec de l'air chaud, il va se réchauffer rapidement, il va passer sous une forme gazeuse rapidement. Et ça peut entraîner un choc important. C'est un choc thermique, en fait, même qui peut amener un rayon glacial, en fait, autour de la fuite. Ça peut amener un choc aussi s'il y a une source d'émission qui est près, par exemple, une flamme nue qui serait près de la source de chaleur. Il peut avoir même le gaz peut devenir inflammable, peut prendre feu. Et ces risques-là sont assez élevés pour que d'autres terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié aient en place des mesures importantes là, pour s'assurer qu'il y ait toujours, par exemple, un rayon de 2 km autour des méthaniers où aucun bateau ne peut approcher finalement. Il y a certains ports méthaniers à Boston, par exemple, où il va y avoir des hélicoptères qui vont accompagner le passage des méthaniers. Beaucoup de mesures mises en place justement pour s'assurer de la sécurité des gens, s'assurer qu'il n'y a pas de source nue, de flammes autour et tout ça. Et nous, Natro-Québec, quand on s'est rendu au BAP, on a posé cette question-là aux experts et expertes qui étaient présents et même les différents ministères, entre autres, qui étaient présents, tant au gouvernement fédéral que provincial. On leur a demandé, sachant qu'il y a toutes ces mesures-là de sécurité qui sont prises dans d'autres ports semblables, en fait, tout à fait identiques à ce qu'il y aurait au Saguenay, quelles seraient les mesures, vous, que vous mettriez en place? Est-ce qu'il y aurait un rayon, par exemple, de sécurité autour des navires? Est-ce qu'il y aurait des mesures additionnelles qui seraient en place? Et ça a été assez gênant, en fait. Il y a eu un silence de la part des experts des différents ministères et ont avoué que finalement, il n'y aurait pas de mesures additionnelles qui seraient mises en place autour des bateaux. Nous, ça nous a particulièrement inquiétés et on espère justement que, bon, si jamais le projet finissait par voir le jour, là, ce qu'on doute fort, et il va falloir absolument qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour assurer la sécurité des personnes qui naviguent sur le Saguenay, mais des personnes aussi qui se retrouvent sur les rives du Saguenay, puisqu'on se rappelle, c'est un milieu, en fait, qui est très étroit, le Saguenay, et parfois, là, le rayon là, potentiel dangereux là, des méthaniers là, peuvent aller plus loin, là, qu'ils peuvent aller se rendre jusque sur les rives même du Saguenay. Là. Donc, c'est à vraiment considérer, et ce n'est pas vrai, comme nous dit les défendeurs du projet puis le promoteur, que c'est absolument sans risque et tout ça. Il existe toujours des risques. Et d'ailleurs, même les commissaires du BAP avaient ramené à l'ordre un petit peu le promoteur durant les audiences en disant, écoutez, ce n'est pas à prendre à la légère quand même. On comprend que le risque zéro n'existe pas, mais il ne faut pas prendre ce risque-là à la légère quand même.
Oui, il y a eu près de 900 questions justement lors des consultations du BAP. C'est un projet qui ne remporte pas l'acceptation sociale. Ça a d'ailleurs été souligné. Le sondage léger mené en mars dernier auprès de 1000 Québécois a montré que 52% étaient défavorables ou très défavorables, particulièrement chez les jeunes et les étudiants, ce qui forme la génération future, contre 27% à peine de favorables, Madame Simard.
Oui, exactement. Donc, c'est un sondage qui a été fait récemment, qui montre, comme vous le dites, comme je le disais en fait plus tôt aussi, c'est qu'il y a deux fois plus donc de personnes qui sont contre le projet que de personnes qui sont pour le projet. Donc, 52% versus 27%. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ce sondage a été réalisé en mars. Il y a un premier sondage qui avait été réalisé aussi en novembre et par léger également, excusez-moi. Et ce qu'on voit, c'est que il y a eu une hausse qui a été statistiquement significative des opposants au projet. Et même, il y a eu une baisse aussi des gens qui étaient pour le projet. Là. Donc, on voit que les gens, vraiment, les gens qui étaient un peu plus peut-être indécis ou qui semblaient être pour le projet ont changé d'avis finalement. Et on a constaté aussi une hausse importante au niveau des gens qui connaissent le projet. Donc, ce qu'on constate au final, c'est que plus les gens connaissent le projet, plus ils sont contre. Alors pour nous, c'est clair que c'est un projet qui n'aura jamais l'acceptabilité sociale puisque les mois vont passer qu'on va juste de plus en plus faire connaître le projet, faire connaître tous les désavantages qu'il apporterait au niveau environnemental, social, économique et qu'on va, on a déjà une majorité de Québécois qui sont contre le projet et ça va seulement aller en augmentant. Il n'y aura jamais d'acceptabilité sociale.
Oui, Madame Muller, je suppose que c'est un petit peu la même chose. Vous, votre groupe de recherche, le GREMS, c'est un groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Est-ce que vous allez aussi faire des actions pour faire connaître, on va dire, ce projet-là, les côtés négatifs de ce projet-là?
Dans tous les cas, c'est pas seulement le projet GNL Québec qui nous inquiétait. Oui, celui-là particulièrement parce que c'était le projet de développement sur le Saguenay qui avait le plus d'augmentation de trafic maritime associé. Mais je pense que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de parler du problème du dérangement par la pollution sonore en général pour les bélugas. Et c'est un travail de sensibilisation qui doit se faire autant avec les plaisanciers qu'avec les promoteurs. L'augmentation du trafic maritime, ben, en tant que citoyens et citoyennes, on en est tous un peu responsables parce que on utilise des produits importés de façon importante et la pandémie ne nous a pas amenés sur une voie contraire, malheureusement. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on va travailler moins contre un projet que dans le partage de l'information qu'on a sur l'effet du bruit sur les bélugas et l'importance de s'attaquer à cette menace-là prioritairement parce que les autres menaces qui pèsent sur les bélugas, c'est-à-dire les changements climatiques, la diminution des proies, la contamination, c'est vraiment des menaces sur lesquelles il va falloir travailler à long terme. On ne pourra pas le changer rapidement, tandis que diminuer le bruit sous-marin, ça, on a la capacité de le faire assez rapidement. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie sur mieux comprendre les effets du bruit sous-marin et bien partager ces résultats-là pour que le public puisse prendre des décisions conséquentes là-dessus.
Oui. Est-ce qu'il y a toujours la possibilité d'adopter un beluga?
Oui, tout à fait. C'est une campagne de financement très sympathique qui permet de jumeler des citoyens, des entreprises avec des bélugas. C'est des vrais bélugas, donc des bélugas que notre équipe de recherche connaît bien, reconnaît grâce à des marques et cicatrices sur le dos. Et on donne des nouvelles du béluga quand on le croise aux parrains et marraines, tout ça en échange d'un don. Donc, s'il y a des citoyens et citoyennes intéressés, adoptez un beluga.org.
Oui, pour connaître un petit peu justement aussi la santé, comment ça va, puis poursuivre aussi ce genre de projet-là sur leur santé. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Marie-Ève Muller, donc responsable des communications et de la philanthropie au GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Vous venez de l'entendre. Et d'Alice-Anne Simard, la directrice générale de Nature Québec. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Bonne journée.
Bonjour.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Valérian Fournier. À la recherche et à la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Il y a des rediffusions de l'émission tout au cours de la semaine. Et à compter du jeudi, vous pouvez également l'écouter sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine et portez-vous bien.